Salut à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de l'OTA Club. Je suis Andrea et je suis toujours accompagnée de Peli. Salut Peli.
Salut tout le monde.
Alors, cette semaine, on va faire comme à l'épisode 3, c'est-à-dire qu'on a lu tous les deux la même chose et qu'on va en discuter. Vous inquiétez pas, on va pas spoiler, de toute façon, on n'est pas arrivé au même stade de l'histoire. Moi, je l'ai terminé. Peli, il te reste deux tomes, je crois.
Il reste deux tomes, ouais, mais je vais terminer voilà. Ça très rapidement.
Oh, il le faut, car moi, je les ai terminés hier matin. Donc, il s'agit du bateau de Thésée chez Vega. Alors, c'est un seinen. Ce n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. Je dirais bien à partir de 15-16 ans. Hein. Donc déjà, vous êtes prévenus.
Oui.
Voilà, nous sommes d'accord. Alors, c'est une enquête. Nous sommes d'accord jusque-là ?
On est d'accord jusque-là.
Il y a du paranormal car notre héros fait des bonds dans le temps.
On est d'accord avec ça aussi.
Voilà, mais à part ça, ça reste très réaliste et très crédible dans son histoire. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de choses qui me sortaient vraiment de la réalité, de ce qu'il était possible de croiser dans la vraie vie.
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que tu veux raconter un peu l'histoire ou tu veux me laisser faire ?
Allez, c'est parti, je vais raconter l'histoire. 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Otouzu, dans le département d'Hokkaido. Faisant 21 victimes, malheureusement, le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Otouzu, où il se trouve, brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Otouzu, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie en 89. Son objectif, bien sûr, empêcher que la tragédie se produise. Rien Exactement. Que ça, déjà, ça envoie du lourd, déjà. Rien que ça.
Tout à fait. Non, c'est vrai que l'intrigue est extrêmement bien menée et ça traîne pas. Ça, le bon dans le temps, il arrive très vite dans le tome 1.
Ah bah, dès les 15-20 premières... Alors, faut remettre aussi dans le contexte, hein, parce que le personnage de Shin, il lui arrive un malheur juste avant. En fait, au tout début, malheureusement, ça commence pas très bien pour lui parce que sa femme fait une accouche, mais malheureusement décède lors de l'accouchement. J'ai appris qu'au Japon, apparemment, lorsqu'on était le fils d'un meurtrier ou quelque chose dans le genre, on était très mal vu par la société. Et en gros, le fait qu'il soit le fils de Sano fait que derrière, il est un peu traité comme un paria, voilà, et sa belle famille lui retire son enfant et lui dit qu'en résumé, voilà, leur fille n'aurait mieux fait de jamais le rencontrer. De toute façon, sachant ce qu'a fait son père, c'est pas étonnant, etc. Donc on va dire que Shin commence pas forcément l'aventure très bien dans un top moral. Et ensuite, le bond dans le temps, oui, il arrive dans les avant le milieu du tome 1, il a déjà fait son bond dans le temps, donc voilà. C'est assez brouillon au début. C'est beaucoup de questions. On voit des coupures de journaux. Alors, ce qui est pas mal, Vega l'a... Alors, ça a été fait aussi dans la version japonaise, je pense, hein, mais Vega aussi bien fait les choses avec... On voit bien les coupures de journaux en grand, on peut lire l'article, etc. Donc, c'est immersif pour nous aussi. Hein, c'est super à ce niveau-là.
En fait, c'est ça. On arrive dans l'histoire à l'instant T. On n'a pas d'explication avant, on n'a pas de résumé. Non, on le voit, il est en train de lire son journal. Il se rappelle un petit peu ce qu'il a vécu à cause de ça. Mais voilà, on n'a pas plus de détails tout de suite. On arrive dans l'histoire, son père, c'est le meurtrier. Ok. Bon, bah, très bien, on passe à la suite, quoi. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Et c'est bien.
C'est bien, non, c'est bien parce que justement, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Dès le premier tome, on a envie de lire la suite. Comme on disait il y a deux semaines, c'est ces tomes-là où il faut se mettre en place, etc. Là, pour le coup, le bateau de Thésée, il n'y a pas besoin. Dès le premier tome, on a envie de lire la suite. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au final, on se dit, bon, le scénario est assez simple, il va tenter d'empêcher ça, voilà, est-ce qu'il va avoir des problèmes ou non. Et au fur et à mesure des tomes, on se rend compte qu'on part dans un délire comme l'effet papillon.
Oui.
Voilà, on a un véritable... Vas-y, vas-y.
C'est le sujet de traitement du voyage dans le temps. Si tu changes quelque chose dans le passé, quel sera le présent dans lequel tu vas revenir ?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est l'une des choses les plus compliquées à faire en littérature, en film, dans tout ce qui est dans le domaine de l'imaginaire. C'est très, très compliqué de traiter du voyage dans le temps. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont pris des murs. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à bien traiter le sujet, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal. Il y a plusieurs versions à chaque fois, donc c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Moi, j'avais... Hors sujet, voilà, j'avais beaucoup aimé par exemple la manière dont Robert Zemeckis dans Retour vers le futur avait traité de ce côté voyage dans le temps et des répercussions qu'il pouvait avoir si on changeait des choses dans le continuum espace-temps. Donc c'est assez intéressant, et j'avais aussi beaucoup aimé justement le film L'effet papillon qui traitait aussi de ce sujet-là en disant bah, si vous changez la moindre chose dans votre passé, bah, votre présent, votre futur, tout ça est répercuté. Et là, dans le bateau de Thésée, bah, c'est aussi superbement bien fait. Et voilà, ça met une grosse claque.
C'est vrai. Moi, ma référence en termes de voyage dans le temps, c'est 22-11-63 de Stephen King. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un retourne dans le passé et empêche l'assassinat de Kennedy, qu'est-ce qui se passe quand il revient ? C'était, je crois, en 2012 ou 13, un truc comme ça. Et donc, bah, vu ce qui était en train de se tramer à l'époque entre les États-Unis et la Russie, ballot quand on regarde à notre époque. Voilà, et c'est vrai que c'est des récits où effectivement ils ont bien pris en compte le fait que si on change un truc dans le passé, on peut pas revenir dans notre présent en se disant ah bah c'est bon maintenant c'est mieux parce que j'ai réglé ce problème là. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche, enfin que ça marche, que ça devrait marcher si c'était possible. Heureusement, ça ne l'est pas.
C'est un peu ça. Mais Higashimoto, le scénariste du bateau de Thésée, Il le fait super bien parce que au final, à un moment, Shin il change un événement dans le passé, et même ce qui se passe dans le passé, ça a une répercussion immédiate. Par exemple, il sauve la vie d'une fille qui devait mourir, je crois, à une date précise. Et ben le fait qu'il l'ait sauvée, bah du coup toutes les dates sont décalées, et lui-même du coup se retrouve avec un petit cahier où il a tous ses articles, et au final il se retrouve bah mince, tout a été décalé. Là maintenant ça va être.
Il n'y a plus rien qui correspond, ouais.
Voilà, plus rien ne correspond, et parfois certains événements même se produisent avant la date.
Ouais, il ne peut plus prévoir. C'est tout le jeu est rebattu, quoi, en gros. Maintenant, c'est. Vas-y, découvre, mec.
C'est ça. C'est ça que j'ai adoré. Parce qu'au final, on se dit, on va avoir un récit linéaire. Le mec, dans le passé, il va empêcher les événements. Bon, on se doute bien qu'il va y avoir quelques petites répercussions, mais voilà. Et non, au final, tu as une répercussion immédiate. Et ça change tout, et au fur et à mesure des pages, on se dit bordel, mais. Et puis, surtout en découvrant, parce que forcément, il va tomber face à son père à l'époque, en 89, et on se rend compte que Bungo Sano, c'est pas du tout le meurtrier type. On se rend compte que non,
quand c'est. Quand on le croit, c'est impensable qu'il aille tuer 21 personnes, dont 16 enfants. Clairement, c'est impossible.
C'est ça, c'est impensable, c'est la bonne famille, on est dans un petit village, tout le monde se connaît, lui c'est le policier de la ville, tout le monde l'aime bien, voilà, c'est très, entre guillemets, c'est un peu la petite maison dans la prairie, quoi, c'est tout le monde, il est beau, tout
c'est
le monde.
C'est vrai.
Voilà,
tout le monde se connaît, enfin voilà.
Voilà, donc déjà, rien que le fait déjà qu'il se passe des drames dans ce village, on se dit, ok, c'est un peu what the fuck. Mais ensuite, quand on se dit que Bungo Sano, qui est, je sais pas, le bon gars par excellence, que c'est lui le meurtrier, on se dit, oh là, non, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui essaye de le faire accuser. Sauf que le problème, c'est qu'au fur et à mesure des pages, on s'aperçoit que, bah, c'est pas si évident que ça, quoi.
Non, c'est vrai que l'enquête, enfin, même toute l'intrigue est extrêmement bien montée. Moi, jusqu'à la révélation du tueur, j'avais aucune idée que ça pouvait être lui. Ah, et pareil. Vraiment, ça. Pardon, on est sûr là. Donc ouais, vraiment. Moi, en général, je lis pas beaucoup de policiers parce que j'ai tendance à savoir assez rapidement qui est le meurtrier. Oui. Et donc ça me fatigue. Voilà, connaître la fin dès le premier quart, ça me saoule. Et ben là, non, vraiment, aucun moyen de le voir venir.
J'ai le même problème. Il y a souvent, je regarde des films, des thrillers comme ça, et je me dis oh bah. Au bout de 30 minutes, oh bah ça doit être lui, parce qu'il y a ça. Et très rarement, je suis contredit dans mes théories. Là, pour le coup, Je disais, ok, là, ouais, lui, elle, ah, et non, au final, tu te fais complètement dépasser. T'en es quand même à un moment dans ta lecture à dire, nom de Dieu, putain,
c'est ça. Bah, surtout quand il revient dans son nouveau présent, il y a tellement de choses qui nous sont balancées, on se dit, mais c'est sûr, c'est bon, je sais qui c'est.
Ah, bah oui. Ah oui, parce que du coup, donc, va se passer ce qui va se passer, à un moment, forcément, il réintègre son présent, sauf que du coup, enfin, bah, effet papillon oblige.
Son nouveau présent.
Son nouveau présent, tout à fait, parce que énormément de choses ont été changées, du coup, et toutes les cartes sont rebattues, et à ce moment-là, on se dit, waouh, mais c'est... Ouais, alors... Bah déjà, c'est un tout nouveau présent, donc pour lui, il est complètement perdu. Même pour nous, on est complètement perdu.
Lui, il ne connaît pas bien les règles du voyage dans le temps, ce qui était persuadé de retourner à son présent, mais tout arrangé. Ouais. Non, mais...
C'est ça.
c'est ça. C'est vrai qu'il est paumé, et ça fait de la peine pour lui, en vrai, vu comment tout est refait. J'étais triste pour lui, de voir ce nouveau présent auquel il devait faire face. C'était...
Bah, oui, alors oui et non, parce que d'un côté, dans ce nouveau présent, bon, alors attention, ça va être peut-être le petit moment spoil, entre guillemets, donc...
On fait attention à pas trop en dire, mais ouais, voilà, c'est vrai que des fois, si on veut pouvoir en parler, il faut donner quelques éléments, sinon, on pourra dire que, lisez-le, voilà.
Ouais, c'est ça, fin de l'émission, allez, salut, à la semaine prochaine.
Allez, bisous.
Y a une personne qui est dans ce nouveau passé, qui n'est pas dans son passé... n'est pas dans son passé de départ, et on se dit, ah bah tiens, ça
dans
fait plaisir.
Présent.
Dans son présent, pardon. Dans son présent, dans son nouveau présent, il y a une personne qui est là, de nouveau là, et on se dit, ah, ça fait plaisir. Oui. Voilà, donc on
c'est
se dit,
vrai.
Ah, ok, il y a quand même un positif dans son nouveau présent. Et puis même, c'est malsain, je trouve, son nouveau présent est très malsain.
Comme tu disais au début, au Japon, quand il y a un criminel dans une famille, toute la famille est considérée comme des criminels et il faut... Non mais leur maison qui se fait taguer, ils sont fracassés, c'en est un point où on a des flashbacks de son enfance, où la mère dit, donc il y a une grande sœur, un frère cadet et le petit frère qui est notre héros, Shin. Elle dit toujours à ses enfants, mais dans la rue, vous n'avez pas le droit de rire, vous n'avez pas le droit de pleurer, on est la famille d'un criminel, on doit toujours s'excuser pour tout ce qu'on fait, on doit montrer aucune émotion, on ne doit pas vivre. En gros, c'est ça qu'elle leur dit. Donc, Shin, il a toujours un masque quand il sort parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse.
C'est ça.
Enfin, c'est vrai que, voilà, cette partie-là, on se dit, mais waouh, hey, c'est chaud, c'est pas eux qui ont fait le massacre, quoi. On se détend. Ouais, mais non, là-bas, c'est comme ça. Du coup, il s'en est plus ou moins accommodé. Et effectivement, quand il revient, il y a une chose qui a été changée. Bon, c'est bien et en même temps, il y a du pas bien, mais. Parce que tout n'a pas été changé. Tout n'a pas été sauvé.
C'est ça, tout à fait. Mais ouais, effectivement, il y a des flashbacks au fur et à mesure de l'aventure. De toute façon, on a des flashbacks où on nous explique ce qu'ils ont un peu vécu quand ils étaient gamins, le fait que leur père soit accusé, voilà. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est vrai, c'est ce parallèle entre, au tout début, on nous présente le drame, on se dit, mais c'est pas possible, la personne qui a commis ça doit être horrible et tout. Et au final, on rencontre ce père de famille qui est vraiment gentil, on se dit, mais non, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je le redis, au fur et à mesure des pages, il y a tout qui va contre lui, quoi. On se dit, non, c'est pas possible. Il y a, à un moment, il retrouve, dès le début d'ailleurs, on retrouve la fameuse. Le poison, là.
Le cyanure de potassium.
C'est ça, le cyanure de potassium, on le retrouve chez lui. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Comment c'est possible? Ça veut dire que c'est lui? Enfin bref, voilà, plein de questionnements comme ça, qui trouvent des réponses au fur et à mesure des tomes, bien sûr, hein, vous inquiétez pas.
Oui, et certains même assez rapidement.
Ouais.
En vrai, ça va, on nous met pas tout en suspens et hop, tome 10, vous avez toutes les réponses. Non,
c'est ça.
Ça avance quand même tranquillement.
Ça, c'est assez cool. Et au fur et à mesure, voilà, ça reste vraiment un très bon thriller psychologique. Moi, perso, c'est le genre de récit-là que je veux, en fait. Je me rends compte que si vraiment j'ai quelque chose que j'aime bien dans la littérature, c'est ces récits-là où tout change du tout au tout. On a une manière de penser au début de la lecture et à la fin de la lecture, on est « Ah non, ouais, c'est incroyable. »
C'est ça. Et encore, tu n'as pas eu la fin. Moi,
et
je
j'ai pas
lu
la fin.
Et j'ai eu cet effet fois 1000, en fait. Parce que... Alors, il y a à la page 1 du tome 1 l'explication... du bateau de Thésée. C'est quoi la légende du bateau de Thésée? Donc Thésée qui est revenu victorieux et donc de Crète, et pour le maintenir sa mémoire, son bateau, à chaque fois qu'une planche s'abîmait, on l'a remplacé par une neuve. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus une seule pièce d'origine. Est-ce que c'est vraiment le même bateau?
Voilà.
Et on part sur l'histoire après, donc de cette famille de criminels et tout. Mais honnêtement, ah là là, la fin, elle m'a retournée. Hein. Oh, je m'attendais pas à ça, mais du tout. Mais à part, allez, 20 pages avant la fin déjà, là, il y a tout qui s'enchaîne et c'est retournement d'estomac sur retournement d'estomac, quoi.
Même là, sur 10 tomes, là, j'en suis au milieu du tome 8, même là, c'est... Waouh, c'est... Ok, d'accord. Oh là, oh là là.
Il n'y a pas de temps mort, en fait. Il y a des moments où c'est un peu plus calme, mais c'est parce que sinon, ce serait juste fatigant. Mais voilà, il n'y a pas de moment où on s'ennuie, pas de moment où il ne se passe rien, ou c'est superflu. Non, non.
Les moments temps mort, c'est plutôt dans les moments un peu slice of life, quand il est en 89, où voilà, c'est tranquille. À un moment, je pense même qu'il se dit qu'il va rester bloqué toute sa vie ici, donc il commence à prendre un poste d'enseignant là-bas. Enfin bref, voilà.
Il est allé dans le passé, il sait pas comment retourner dans son présent, donc autant continuer ma vie ici, quoi.
Il est un peu résigné. Alors, si on pouvait parler d'un côté un peu négatif sur ce récit, moi je trouve que par contre, lorsqu'il est en 89 et qu'on commence, à un moment il commence à expliquer un peu, voilà, forcément il passe pour un espèce de devin, entre guillemets, parce qu'il arrive à prévoir certains événements, au final, c'est pris assez bien. Moi je m'attendais plus de complications.
C'est ça, il raconte ça à un personnage, je fais « Bon d'accord !» Bon, okay. Certes, il a eu des preuves entre les mains qui sont assez irréfutables. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, là, il y a des choses que je ne peux pas expliquer, donc je vais le croire pour l'instant jusqu'à ce que j'ai le fin mot de l'histoire. C'est peut-être ça le point de ce personnage-là. Mais quand tu vois ce qu'il a eu entre les mains, tu fais, bon, soit le gars, il est mytho, il a monté son histoire de fou, soit effectivement, il vient du futur et bon, on verra bien où ça nous mène.
Et c'est justement ça qui... Heureusement que le reste du récit est super intéressant, que le récit est vraiment haletant à ce niveau-là, parce que s'il y avait eu ça et que le reste du récit, ça part en autre boudin, on se dit « Ouais, ok,
bof, dommage. » Ça aurait tout gâché.
Voilà. Et au final, non, pas du tout, c'est juste une petite péripétie, c'est vraiment pour dire « Tiens, bon, allez, il y a ça qui m'a pas plu dans le récit, mais c'est vraiment pour chercher, c'est vraiment si je gratte, hein, sinon... »
Après, est-ce que c'est une petite facilité scénaristique pour que l'histoire puisse avancer quand même?
Je pense, à un moment, il faut bien. À un moment, il faut bien.
Il faut bien que le personnage ait des alliés. Sinon, il est tout seul, il peut rien faire, il peut rien changer, et puis fin de l'histoire, quoi.
Oui, et puis même, à un moment, tu te retrouves dans ce genre de récit avec tellement de ramifications partout, tellement de...
Oui.
Une pelote de laine, quoi, le truc. Donc, faut tirer, on tire des fils, mais si, quand tu tires un fil, t'en déroules un autre, à un moment, il faut bien... Il faut que le lecteur comprenne, donc c'est sûr qu'il y a, comme tu dis, des facilités scénaristiques parfois, on est obligé de passer par là, je pense que là, c'en est une parfaite, il s'en est bien sorti, mais en tout cas, c'est ça, le concept, comme tu disais, du bateau de Thésée, c'est ça, c'est un objet dont toutes les composants ont été remplacées, est-ce que ça reste le même objet, donc là, on le met en version humain, est-ce qu'un homme qui a été, dont les émotions ont été peut-être remplacées, est-ce que ça reste le même homme? Voilà, c'est un peu... Moi, je l'ai vu comme ça, et c'est franchement un récit qui marque beaucoup.
Je dis rien de plus. Je tisse que la fin est juste incroyable, mais je ne dis rien de plus.
Alors, je vais être honnête avec toi. Je pense qu'à mon avis, la fin est... Il y a une fin dans le... Comme un peu j'avais prévu au milieu de ma lecture, je me suis dit « Ah, mais si c'était ça !» Et franchement, on en reparlera une fois que j'aurai lu. Mais si c'est ça, franchement, c'est non seulement déjà c'est assez couillu de faire ça, et clairement, je me dis que je suis plutôt pas mal quand même, parce que si j'arrive à deviner ce genre de choses, c'est que je suis pas mal quand même en termes
de... C'est vrai.
en me lançant des fleurs.
T'auras plus qu'à écrire un scénar de thriller, voilà. T'auras toutes les cartes en main.
Tellement compliqué.
Voilà, oui.
Mais c'est compliqué d'écrire des scénarios comme ça, de franchement en faire. Mais ça, typiquement, ce serait le genre de série qui me brancherait.
Il pourrait complètement en faire une série, ce serait incroyable.
Tu l'as fait sur deux, trois saisons, hein. Peut-être pas trois saisons, mais sur
même
deux
pas.
Saisons.
En vrai, même une saison, si c'est bien fait. En plus, c'est la mode des séries des années 80, en ce moment, ça se passe en 89.
Ouais, voilà, voilà.
Faites quelque chose, les gars.
Si un scénariste nous écoute, Netflix, si vous nous écoutez, allez-y.
Envoyez cet épisode à Netflix, allez-y, ils sont en manque d'idées apparemment.
Envoyez ce manga, voilà, ils sont en manque d'idées actuellement, donc envoyez ce manga, apparemment, en plus, c'est la mode de faire des live-action sur des mangas, donc allez-y,
oui, aussi.
Envoyez le bateau de
là, y a tout.
Voilà. Voilà. Là, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus. Et c'est plutôt cool, par contre, de voir, bah, c'est Vega, c'est plutôt cool de voir que chez un petit éditeur, Vega, pour moi, je pense que c'est un petit éditeur.
Côté manga, oui, ils font pas mal de BD, mais c'est vrai que manga, c'est pas trop leur fond de commerce.
C'est vraiment assez intéressant parce que Vega, en plus, ils ont d'autres mangas qui sont vraiment intéressants comme ça. On a aussi Les Enfants, les Enfants d'Hippocrate, je crois, dans le même style.
Oui, tout à fait, bah, du même auteur.
Voilà, du même auteur en plus.
Et voilà, comme je parlais de Deep Sea Aquarium Magmel il y a deux semaines, c'était Vega aussi. Donc ouais, ils ont plein de choses à offrir, mais c'est presque un peu du manga niche en fait. Hein. C'est des sujets qui n'intéressent pas les grandes maisons d'édition, mais qui ont plein de choses à offrir.
C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ce récit, moi j'en avais entendu parler il y a quelques temps déjà, c'était ma collègue et amie Sego Ayo, qui a un podcast, qui avait parlé du bateau de Thésée. C'était sa grosse révélation de 2021. Donc, elle m'avait teasé pas mal de fois le récit. Voilà, j'avais lu le premier, j'étais pas forcément à cette époque-là hypé sur ce genre de récit, parce que j'étais plutôt à essayer de rattraper les shonen. Ouais, c'est vrai que je dois avouer que au tout début, lorsque j'ai repris les mangas, j'étais plutôt sur des shonen genre DBZ, Bleach, tout ça, voilà. Et au final, quand on creuse un peu, on commence à se faire sa méthode de lecture de manga, et voilà, ça, à force, on se fait ses goûts, et voilà, là, pour le coup, c'est...
Les goûts changent au fur et à mesure.
Mais c'est ça, mais c'est ça, mais justement, c'est ça, j'aime assez ce côté-là, donc il y a ça aussi. Je vous conseille aussi l'excellent podcast de Case en Case, qui avait justement invité les directeurs de Vega, donc qui avait parlé aussi de la manière dont ils souhaitaient éditer des mangas. C'est vraiment super intéressant pour avoir le point de vue de l'éditeur aussi sur ce genre de récit.
Bah ouais, carrément, c'est un métier qui est trop sous-estimé, mais en fait, ils font un travail de dingue. Et ils se battent pour avoir leur manga. On croit
pas,
mais
oui,
ils se battent
ça,
vraiment. Ça, il y en a qui se battent. Pour avoir des bonnes séries, pas toujours récupérer ce qui s'est pas vendu au Japon et qu'on vendra pas en France non plus, quoi.
C'est ça, voilà, tout à fait. Et t'es bien placé pour, effectivement, en tant que...
Oui.
En tant que...
C'est sûr. Ouais, en tant que libraire, j'ai des infos, tout, tout ça, tout ça.
Un jour, peut-être, Andréa nous livrera les secrets d'une librairie manga, pourquoi pas.
Oh, peut-être, si ça vous intéresse, dites-le nous.
Voilà, tout à fait, mettez-le en commentaire. Donc, du coup, le bateau de Thésée chez Vega, nous vous le conseillons vraiment. Attention, comme on disait, ne pas mettre entre toutes les mains, c'est sûr, à partir de...
C'est pas les mêmes red flags que pour Un lien du sang, mais il y en a quand même.
C'est voilà, il y a quand même assez des images, quelques images choquantes, quelques termes choquants aussi, des choses qui se passent, voilà. Donc c'est vrai que
attention. C'est... Dans le tome 3, c'est parti dans une zone. J'ai fait oula.
Oui.
Je
m'attendais
pas à ça. Je fais ouh. Ah oui, on en est là. D'accord.
On parle de la même chose. On parle de la même chose.
Oui.
Donc voilà.
Donc la maltraitance sur enfant est quelque chose qui vous touche, sachez que vous passerez un mauvais moment en lisant le tome 3, enfin 2-3 pages du tome 3. Ouais. Mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment juste cette petite parenthèse. Faut pas s'arrêter à cet endroit-là. Ça va pas être quelque chose de récurrent. Voilà. Mais c'est là.
Mais en tout cas, ça reste un récit super. Si vous aimez les thrillers psychologiques, les enquêtes policières, les voyages dans le temps, vous ne serez pas déçus. Donc, nous vous conseillons donc le bateau de Thésée chez Vega. Donc, foncez chez votre libraire préféré pour l'acheter. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi, voilà, si vous êtes d'accord avec notre point de vue, etc.
Eh bien, du coup, on se laisse pour ce 6e épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est super sympa. Merci pour vos retours aussi sur les anciens épisodes. On vous l'a pas dit en début, donc je vous le dis maintenant. C'est super. Vos commentaires, ça nous fait toujours très plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer. C'est trop bien. Si vous avez d'autres suggestions à nous faire sur le fond, sur la forme, sur des mangas, quoi que ce soit, on vous écoute. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Pelli.
Salut, à la semaine prochaine et une bonne rentrée à tous en ce 1er septembre.
C'est vrai, bonne rentrée!